Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la curiosité sur RTL, on est ensemble jusqu'à 15h pour faire le plein d'aventures, de sciences, d'histoires, de sagas musicales et de destins extraordinaires avec Sidonie Bonnec. Ça va Sidonie ?
Très bien, en pleine forme, bienvenue les curieux. On a de la chance dans cette émission parce qu'on peut s'appuyer sur les talents de la rédaction d'RTL et tout à l'heure, c'est Bénédicte Tassard qui viendra nous raconter la saga Le Bon Coin. On vend et on y achète de tout, on peut même y trouver un emploi. Le Bon Coin, petite entreprise familiale ou grosse machine, comment gagne-t-elle de l'argent? Quelles sont les arnaques dans lesquelles il ne faut pas tomber? On vous dira tout.
Mais tout de suite, un autre grand talent RTL, un passionné de météo, Louis Baudin, est notre invité dans la curiosité. Louis Baudin, le chef du service météo de RTL, bonjour, merci d'être avec nous dans la curiosité.
Bonjour.
Vous êtes sur la brèche
merci
depuis de deux jours ouais. Pour nous aider à comprendre les phénomènes les plus extrêmes comme ce cyclone, ces cyclones, parce qu'il y en a plusieurs, Irma, celui qui a frappé les Antilles, est surnommé l'ouragan du siècle. Alors déjà, un petit peu de sémantique. Il y a une différence entre cyclone et ouragan? On peut employer les mots indifféremment?
Non, on peut employer les deux indifféremment. Ouragan, c'est un peu le summum de ce qu'on utilise en marine, c'est-à-dire quand on dépasse force 12, mais après ça va à force 14, 15, enfin, ça n'existe plus. Après, on est hors échelle. Et là, à ce moment-là, on parle d'un ouragan ou encore d'un cyclone, quand on veut être dans la définition du cyclone par sa constitution physique.
Alors comment un tel monstre, comment ce cyclone Irma se forme-t-il? Ça marche comment ça?
Alors comme la plupart des cyclones, ça commence autour des tropiques, autour de l'équateur météorologique. C'est là où on a les eaux les plus chaudes, c'est là où on a l'instabilité naissante, où on a ces orages qui existent tout au long de l'année, ce qu'on appelle sur l'équateur météorologique. Et puis de temps en temps, ces orages commencent à s'agglutiner et à former ce qu'on appelle une onde d'est, c'est-à-dire un amas d'orages comme ça. Puis petit à petit, en s'éloignant un petit peu de l'équateur, tout ça s'organise en un tourbillon et ça devient un cyclone qui va pouvoir se développer. Alors, il lui faut deux facteurs importants. Ouais. Il lui faut des eaux très chaudes. Ça, c'est ce qui lui donne son énergie, ce qui l'alimente en évaporation et lui donne cette constitution. Et puis également, il faut une certaine configuration verticale, puisqu'on sait qu'un cyclone s'étend très loin en altitude.
Et ça et donc, tourne. Pourquoi ça tourne?
Et pourquoi ça ouais. tourne? Parce que c'est la force de Coriolis. Hein, ouais. C'est-à-dire que la Terre elle-même tourne et que donc tout objet qui se déplace sur la planète est dévié par la force de Coriolis. Et ça nous donne ce sens de rotation qui donne naissance aux dépressions, d'ailleurs, aux anticyclones avec leur sens, mais également à ces phénomènes cycloniques.
Mais quand vous dites ça, donc ça monte, donc on a bien l'image en tête, mais ça peut faire quelle taille?
Ah bah là, ça peut faire, ça va jusqu'à ce qu'on appelle jusqu'à la tropopause, c'est-à-dire que ça va jusqu'à la limite de l'atmosphère, et à cet endroit-là, la limite de l'atmosphère peut être de 10, 12 km, hein, donc c'est un nuage qui fait au moins 10 km d'épaisseur, et évidemment, sur cette montée en altitude, il faut qu'il y ait une certaine configuration des vents qui ne casse pas cet effet-là, c'est-à-dire que pour ça qu'on parle de cisaillement, donc alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans ces vents quand on monte en altitude. Et s'il y a cette cohérence et ces eaux très chaudes, alors là, un cyclone existe. Et puis si après, il y a encore des eaux très très chaudes, on a 29 degrés, je crois, de température de l'eau en ce moment au large de Haïti. On frôlera les 30 degrés en arrivant sur la Floride.
Il continue de se gonfler
d'énergie.
Donc ça veut
dire qu'il continue
quoi.
À se gonfler. En tout cas, il garde son activité. Et voilà pourquoi il est devenu aussi intense.
Louis Baudin, les dégâts humains et matériels sont considérables. Aux Antilles, les vents les plus violents ont atteint quelle vitesse?
Alors, on fera les comptes après parce qu'effectivement, on entend des valeurs de 360, j'ai même entendu un 390 km/h. Alors attention, parce que ça, ce sont des vents reconstitués à partir d'imageries satellites où on essaie de revoir la force des vents. Il faudra voir si des capteurs ont résisté déjà et quelle valeur officielle on aura. Pour l'instant, effectivement, visiblement, des capteurs sont envolés sur certaines zones, donc ils n'ont pas résisté au vent, ce qui veut dire qu'on aura du mal à avoir la plus forte rafale. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a eu au moins 280, voire 290 km/h et qu'on a frôlé les 300 km/h. C'est déjà énorme. Je prends toujours cet exemple. On a eu dans les tempêtes de 1999 en France, vous vous rappelez l'impact, avec des forêts entièrement couchées, avec des toits arrachés, 200 km/h sur le pont de l'île de Ré. C'était la plus forte rafale. Là, on est 100 km/h au-dessus.
Ça ressemble à quoi un cyclone? Les vents, ils sont dans le flanc et au centre, c'est l'œil. Et c'est le calme?
Oui, alors c'est comme un tourbillon, c'est-à-dire qu'on a sur la périphérie des vents violents et puis on a un œil au milieu, là où on est sur l'axe de rotation, qui fait en gros pour ce cyclone-là 40 à 50 km de diamètre. Et dans cet œil-là, ben, évidemment, il n'y a rien, il n'y a pas de vent, c'est le calme, et on a même du soleil, mais ça dure une demi-heure à peu près, puisqu'il se déplaçait à 25 km/h. Et c'est ce qui s'est passé, puisque l'œil est passé sur Saint-Martin et sur Saint-Barth, ce qui est le pire, parce que certes, on a une petite période d'accalmie, mais surtout, on a eu des vents totalement différents. Imaginez un cyclone. cyclone, donc avec le sens de rotation. Donc à l'avant de ce cyclone, vous avez, là en l'occurrence c'était des vents de secteur nord, donc qui arrivaient du nord, qui ont soufflé à 300 km/h. Donc ça couche tout ce qui est végétal et autres vers le sud, hein, dans un sens. Après vous avez l'œil où là ça se redresse un peu, et après ça repart aussi violent dans l'autre sens à 180 degrés. Donc ça joue un peu, vous savez quand vous voulez couper un bout de fil de fer, qu'est-ce qu'on fait? On le manipule dans les deux sens. Et bien là le cyclone, il a fait un peu ça. Donc voilà pourquoi
c'est pour ça que les territoires sont dévastés.
Dévastés, exactement.
Ça peut dévier de sa route un cyclone. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un cyclone dévie?
Ah, en fait, il va être dévié par ce que je disais tout à l'heure, soit les eaux chaudes, c'est-à-dire qu'il va suivre...
Il cherche les eaux chaudes, en quelque sorte.
Il peut s'alimenter avec les eaux chaudes. Et puis, non, l'autre facteur le plus important sont les vents en altitude, puisque, évidemment, on l'a dit, hein, ça monte très haut en altitude. Donc, si les vents en altitude changent, ben, ça va influer également sur la direction de ce cyclone. C'est avec ces deux facteurs qu'on essaie un peu de prévoir leur trajectoire.
Et on espère que les dégâts ne seront pas encore plus considérables, notamment en Floride. Les cyclones, c'est l'un des phénomènes météo dont vous parlez dans votre livre Les Pourquoi de la météo, avec, alors il y a beaucoup de belles découvertes aussi, on va les découvrir tout de suite sur RTL, par exemple la lune rousse ou le rayon vert. À tout de suite.
Vous écoutez RTL. RTL.
Matin à forte rosée, tonnerre en fin de journée.
La curiosité est un vilain défaut.
Un soir de pluie.
Regardez l'évolution pour les prochaines heures, on va retrouver encore cette répartition.
Sous le soleil, exactement.
Pluie avant 7h, beau temps avant 11h.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
C'est joli comme dicton ça, Louis avant 7h, beau temps avant 11h.
Ce qui est génial avec la curiosité, c'est que vous avez tout le temps de nous raconter ces phénomènes. Par exemple, j'ai découvert dans votre livre que l'influence des courants marins sur le temps était une vérité, c'est-à-dire quels sont par exemple les courants les plus connus pour commencer?
Le Gulf Stream évidemment, hein, ou le courant qui fait le circumpacifique, c'est-à-dire qu'en fait on a des courants qui font quasiment le tour du monde. Alors évidemment j'exagère un peu, mais c'est un peu, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que on les voit s'enfoncer par exemple sur le centre de l'Atlantique et puis ils rejaillissent sur l'Atlantique Sud et puis ensuite ils traversent vers l'océan Indien où ils font une boucle puis repartent vers le Pacifique en se transformant. Mais évidemment ces grands courants de fond, ils transportent une eau qui est à une certaine température. Évidemment, de l'évolution de ces températures, on comprend bien que ça peut avoir une influence sur ce qui se passe en surface. Donc évidemment, ces courants ont une influence sur le climat.
Est-ce qu'il y a un océan où ils sont extrêmement nombreux, ces courants marins?
Alors, ils sont à peu près dans le même nombre dans tous les océans. Si on regarde dans l'océan Atlantique, on a évidemment ce Gulf Stream, hein, qui est en surface, qui traverse l'Atlantique et qui a une influence énorme, puisque Bordeaux, par exemple, est quasiment à la latitude de Montréal. Et on voit bien qu'on n'a pas du tout le même temps, alors que pourtant, l'énergie apportée par le soleil tout au long de l'année est tout à fait comparable. Donc, on voit bien là que le courant marin a une forte influence.
Comment ça marche dans le détail? C'est quoi? Ça amène de l'humidité? Moi, je vais dire ça. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est vrai. Ça apporte une part d'humidité et surtout une part de chaleur. C'est-à-dire que l'eau du Gulf Stream, c'est une eau qui est entre 13 et 17, 18 degrés à peu près, suivant la période de l'année.
Donc on va voir la différence quand on, si par exemple, on se baigne, on peut sentir qu'on rentre dans le Gulf Stream?
On va surtout sentir
le courant, c'est ça?
On va sentir le courant, mais on sentirait également cette température-là. D'accord. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait la traversée atlantique, moi j'ai pu le faire quand je faisais encore de la course au large. Et quand vous traversez effectivement du courant du Labrador au Gulf Stream, il y a une différence de densité, de couleurs, mais qu'on voit en quelques, quand je dis centaines de mètres, j'exagère un peu, mais en quelques kilomètres, en 2-3 kilomètres, on sait qu'on est passé de l'un à l'autre. D'accord. Et ça a d'ailleurs tout de suite des conséquences. C'est quand on passe dans le courant du Labrador en venant du Gulf Stream, quand on arrive des États-Unis, on passe dans une eau beaucoup plus froide et il y a souvent de l'évaporation et donc du brouillard. C'est-à-dire que d'un seul coup, on passe d'un ciel clair à un ciel totalement bouché. Et on sait que là, on a changé de courant, donc de température de l'eau.
Alors pour comprendre notre météo en France, Louis Baudin, donc on a ce Gulf Stream par exemple qui agit sur Bordeaux. Est-ce qu'il y a d'autres courants comme ça marins qui agissent sur d'autres parties de la France?
Alors c'est en gros le Gulf Stream qui agit sur tout le littoral atlantique, qui est plus actif d'ailleurs dans la partie Bretagne. Voilà pourquoi quand on remonte vers les Scilly, vers le sud de l'Angleterre, on peut avoir quasiment des plantes tropicales, parce que entouré d'eau toujours relativement douce, on n'a pas de gelée, on n'a pas de température négative. Je pense aussi l'île sur la pointe de Cornouailles, où là quand on arrive justement en mer, on sent l'île avant de la voir, parce qu'elle a des essences quasiment tropicales. Alors évidemment, si on va en Angleterre et qu'on rentre un peu dans les terres, on n'aura plus du tout la même température moyenne et donc la même végétation.
Dans les tropiques à Londres, c'est moins présent. Ou alors en boîte de nuit. Dans votre livre, les pourquoi de la météo, Louis Boda, vous nous dites qu'une molécule d'eau fait le tour de la planète en un millénaire, en un millier d'années. Mais comment on peut évaluer ce temps de trajet? Moi, c'est ça qui me fascine.
Oui, alors, mais c'est très bien de poser cette question-là, parce que ça, c'est ce que donnent les études, et c'est ce que donne la connaissance d'aujourd'hui. Ça, c'est un phénomène, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier en matière de météorologie, c'est qu'on progresse, mais on est loin de tout savoir. Donc, effectivement, avec le calcul de la dérive de ces courants fonds marins, alors, on a mis des bouées, on a essayé d'estimer, de mettre des marqueurs, et on se dit, tiens, ça bouge de quelques centimètres par an. Donc, si on fait comme ça une projection, on se dit, une particule va parcourir le tour de la planète en tant de temps.
D'accord.
Évidemment, elle peut peut-être ralentir, accélérer par endroits. On n'a pas été au fond tout le temps, vérifier sa vitesse de déplacement. Oui. Mais voilà, on en est là aujourd'hui.
Vous
dans
n'avez
la
pas une copie de molécules d'eau. C'est pas des amis que vous avez dans votre entourage.
Souvent, on me demande d'en avoir parce qu'on aimerait bien qu'elle passe un peu à côté. Mais
allez, tiens, puisqu'on est en mer, on va évoquer ensemble la catastrophe du Titanic.
Tout a commencé en Irlande, au chantier naval Harland & Wolff à Belfast. 3000 hommes travaillèrent ici pendant plus de 2 ans. Ils construisirent un monstre. Le plus grand navire que le monde ait jamais vu. Le paquebot allait peser 66 000 tonnes, sa coque allait pouvoir contenir 4 pâtés de maison. Et chacun de ces colossaux moteurs à vapeur était de la taille d'un immeuble de 3 étages.
Et pourtant, le Titanic ne résistera pas à son premier voyage. 1517 morts dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Et ça a un rapport avec les courants. Les marins du Titanic ont été victimes d'un mirage supérieur. C'est quoi, Louis ?
Oui, alors ça, c'est un mirage. Justement, on est dans ces zones d'eau froide. On arrivait dans le courant du Labrador, c'est-à-dire dans ce courant qui apporte par le nord, justement, les icebergs. C'est une zone que l'on évite aujourd'hui, à des zones interdites. Bon, à l'époque, malheureusement, on n'avait pas autant d'informations. Donc, le Titanic s'est présenté dans cette zone. Donc, on sait que c'est un courant qui arrive du nord. C'est un courant avec des eaux froides. Et à la surface de ces eaux froides, on a, comme on peut l'avoir dans le désert, un phénomène de mirage. Ce qui veut dire qu'un phénomène réel peut être au contraire projeté beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a un effet d'optique qui fait qu'un iceberg qui est à 300 ou 400 mètres, on va avoir l'impression qu'il est à 1 km. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu l'impression qu'ils allaient pouvoir passer en dehors ou plus loin que cet iceberg que la réalité. Et on connaît la suite, malheureusement, ils n'ont pas pu l'éviter.
Et même les fusées de détresse, alors elles ont fonctionné, mais elles n'ont pas été bien vues, c'est ça, à cause de ce phénomène ?
Alors, probablement à cause de ce phénomène, mais peut-être également parce que quand on est au-dessus de la surface de l'eau, peut-être dans les premières dizaines, vingtaines, trentaines de mètres, peut-être que là, on avait aussi une visibilité qui était déjà beaucoup plus réduite.
Il y a un océan et des milliers de kilomètres entre la forêt amazonienne et le Sahara. Et pourtant, ils dépendent l'un de l'autre. Comment ? Réponse dans une minute sur RTL. Restez avec nous, c'est le nouveau 14-15h sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Culture, service, humour, belle matinée sur RTL. Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
De toute façon, moi, en tant que météorologiste, déjà, je ne peux pas m'empêcher de faire mes propres prévisions.
Seigneur météo, quando dit-il fait beau.
Je regarde, j'ai une sensibilité autour du temps. Est-ce qu'il va être fiable ? Dans quel sens on va ? Est-ce qu'on est un peu plus optimiste, un peu plus pessimiste que la veille ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Et avec Louis Bonin, notre seigneur météo, je suis obligé de faire la blague.
Peut-être
et
pas exagérer.
Quand cette chanson sort dans un mariage, tout le monde vient vous inviter à danser, non ?
Exactement. C'est ça. Ah ben ça, oui, ça je n'y coupe pas.
Bon, on découvre les pourquoi de la météo avec vous, Louis Bonin. Ces questions que l'on se pose, qui nous surprennent aussi, comme cette histoire qui est vraiment dingue, qu'on a découvert dans votre livre publié chez Albin Michel, qui réunit une forêt et un désert. Vous pouvez nous présenter déjà les heureux mariés, justement, les protagonistes ?
Oui, c'est la partie occidentale de l'Afrique et puis une grande partie de l'Amazonie, donc de l'Amérique du Sud. Les deux sont reliés par un courant aérien qu'on connaît bien, c'est le phénomène d'Alizé. Et cet Alizé, il se répercute alors à la fois à proximité de l'océan, pour là encore ceux qui ont navigué, ceux qui connaissent ce phénomène-là, ou même aux Antilles, ouais. On en a les effets, mais ça se propage également en latitude, et ça avec une constance. On sait que la Lysée souffle quasiment toute l'année dans la même direction. Et donc, quand on a la bonne configuration sur le continent africain, sur la partie ouest, c'est-à-dire une dépression avec une élévation, avec des systèmes orageux qui vont transporter une partie du sable ou en tout cas certaines particules à haute altitude, tout ça est repris dans ce courant atmosphérique qui va traverser l'Atlantique.
Mais il y a près de 5000 km entre les deux, entre le Sahara et l'Amazonie.
Oui, mais si ces particules sont suffisamment légères et il y en a toujours dans le sable, il y en a toujours dans ces particules organiques qui vont être suffisamment légères pour être transportées par ce vent très régulier et qui va pouvoir propager ces particules jusqu'en Amazonie.
Alors c'est fou parce que 4800, 5000 km les séparent, il y a un océan qui les sépare et pourtant la survie de la forêt amazonienne dépend du Sahara. Pourquoi ? Comment ça s'explique ?
On fait cette corrélation dans plein d'autres zones, dans d'autres zones géographiques. Mais là, tout simplement parce que certains organismes qui existent en Afrique n'existaient pas ou n'existeraient pas sur le continent sud-américain, et que de ce mélange entre ces micro-organismes qui sont venus enrichir une partie de l'Amazonie, on a pu voir certaines plantes et l'Amazonie se développer et donner ce résultat-là aujourd'hui. Mais c'est clair que les deux sont imbriqués. Si on coupait demain la Lysée, il est probable que ça aura une influence sur l'évolution de la végétation en Amérique du Sud.
Ça veut dire que la nature a inventé la mondialisation bien avant nous.
Ah bah bien avant nous, et d'ailleurs c'est une leçon qu'il faut garder à l'esprit. Les nuages n'ont pas de frontières. Quand on veut faire la prévision à l'endroit, il faut connaître le temps qu'il fait sur la globalité de la planète. Et ça nous donne bien des signes de ce que l'on doit faire aujourd'hui, en tout cas ce vers quoi on doit aller si on veut que notre civilisation ou notre espèce survive. Ouais, ça c'est clair.
C'est important de le rappeler à chaque occasion, donc bravo. La Lysée, d'un mot, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un vent dominant ou ça n'a rien à voir ?
Oui, alors c'est vrai que c'est un vent dominant. Hein. C'est un vent régulier qui est dû à une configuration géographique et toujours à cette force de Coriolis, ce qui fait que régulièrement, entre l'équateur, l'équateur météorologique est une vraie barrière météorologique, c'est-à-dire que les particules ont du mal à passer d'un côté à l'autre. Mmh. Donc elles sont un petit peu cantonnées au sud ou au nord de cet équateur qui est comme un mur météorologique. Et puis juste au-dessus, on a ce qu'on appelle l'anticyclone. Alors nous, on le connaît, c'est l'anticyclone des Açores qui tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis coincé entre les deux, on a une espèce de couloir avec un effet Venturi, et là on a ce vent régulier qui souffle tout le temps, quasiment du continent africain aux Antilles et au nord de l'Amérique du Sud.
Louis Baudin, vous publiez Les Pourquoi de la météo aux éditions Albin Michel, et ce qu'on a adoré dans votre livre, c'est que vous vous posez des questions qu'on ne se pose pas non plus, par exemple, et vous y répondez, par exemple, pourquoi les gouttes de pluie n'écrasent-elles pas les moustiques ? Ah bah oui, c'est vrai.
Elle est bonne celle-là.
Non mais je me suis dit, bah oui, évidemment, ils doivent souffrir ces pauvres moustiques.
Alors déjà, le moustique, quoi, alors même si nous on l'écrase très facilement, il a quand même une résistance par rapport à son physique, à sa densité incroyable. Hein. On prend cet exemple, on pourrait mettre une cinquantaine ou une centaine de moustiques sur des congénères sur lui, il ne meurt pas. Nous, si on met une centaine d'hommes sur celui qui est tout en bas, ça va pas bien se finir.
Ça, c'est sûr.
Donc déjà, il a intrinsèquement un physique qui est beaucoup plus, ça peut paraître paradoxal, plus solide que le nôtre.
Quoi.
Il est costaud, mais surtout il a une capacité d'adaptation par rapport à cette gouttelette d'eau que nous on n'a absolument pas. Et ce qui fait qu'il arrive à survivre à ça. Mais c'est intéressant.
Il s'en extirpe. Mais il est d'abord emporté,
il est
quand
emporté.
Même par la goutte,
ben
c'est
exactement.
Ça
il est emporté.
J'essaie d'imaginer
par la goutte.
La scène.
Et ben oui. C'est ça. La scène, c'est ça. C'est que bam, il est attrapé par la goutte. Tout au long du voyage de cette même goutte, il va lui évoluer à l'intérieur de cette gouttelette d'eau, se sécher et s'en séparer. Mais effectivement, il est attrapé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas écrasé par la gouttelette d'eau.
Mais il subit quand même, je sais pas si on imagine Thomas Pesquet subissant des jets pour préparer son voyage dans l'espace, est-ce que ce petit moustique là qui est embarqué par la goutte de pluie, il subit aussi
des jets ? Oui, il subit, mais ce que je vous disais en préalable, c'est-à-dire que lui, par rapport à sa constitution, est beaucoup plus solide que nous, c'est-à-dire qu'il peut prendre beaucoup plus de jets sans en pâtir que nous.
Donc des jets, on rappelle, il subit plusieurs fois son poids, c'est ça ?
Voilà, plusieurs fois en accélération, ouais. C'est-à-dire que la gouttelette d'eau d'un seul coup va le projeter avec une forte accélération et il résiste très bien à cette accélération.
Alors, autre question que vous posiez peut-être au cœur de l'été devant une magnifique lune rousse. D'où vient ce phénomène ? Et peut-il vraiment griller les semences ? A tout de suite les curieux.
RTL.
RTL, c'est
des découvertes,
mais aussi des standards.
Et des nouveautés.
RTL.
On aime la musique sur RTL. RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Les pourquoi de la météo au menu de notre curiosité, c'est aussi le titre de votre livre, Louis Baudin. Vous y parlez notamment de cette romantique lune rousse. Vous nous rappelez ce que c'est, la lune rousse ?
La lune rousse, c'est une lune. Alors déjà, il faut qu'il y ait un ciel clair, il faut qu'il y ait un angle particulier par rapport au soleil, et il faut qu'il y ait une limpidité de l'atmosphère pour qu'elle nous donne cette couleur-là. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a un ciel lumineux. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand on a une lune rousse, quand on la voit, ça veut dire que le ciel est dégagé. Donc ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle du rayonnement nocturne. Donc il y a toutes les chances pour qu'au lever du jour, la température soit très basse. Donc effectivement, ça puisse avoir une influence néfaste sur les végétations, si on est au moment du printemps, si on est au moment où elle commence à sortir. Donc voilà pourquoi on se méfie de cette lune rousse. D'abord parce qu'on
le
la voit.
Le dicton, c'est la lune rousse sur la semence toujours aura mauvaise influence.
Exactement.
J'ai appris ça dans votre livre.
Donc le lien, c'est tout simplement que le ciel est probablement dégagé quand on la regarde, le sera encore au petit matin. Donc ça veut dire que tout au long de la nuit, la Terre a libéré son énergie, donc la température est très basse et que ça nous donne probablement des températures proches des gelées ou avec des gelées. Donc forcément, c'est pas bon pour la végétation.
Donc c'est pas la lune qui a un effet et qui fait griller ou roussir les semences. Est-ce
non.
que d'une manière générale la lune a un effet sur le temps ?
Alors voilà, ça c'est très bien cette question-là.
Ça
me la pose tout le temps. Alors pas sur le temps. C'est-à-dire que la météo, et je dis ça d'autant plus catégoriquement, ce qui est assez rare de ma part en météo, mais c'est que j'ai participé à une étude quand j'étais encore à Météo France sur, alors est-ce qu'on peut statistiquement démontrer que la Lune influence ou pas ? Eh bien non, c'est facile à comprendre, c'est que si on s'imagine à un endroit ou à un autre sur la Terre, et en particulier en France, on voit bien que même en cas de pleine Lune, le comportement de la météo suivant les régions n'est pas le même. Donc
il
faudrait que l'influence soit vraiment très très forte pour que ce soit
ça
marqué.
Une influence sur les marées,
en revanche,
ça c'est vrai, mais
ça
pas
une influence
pas sur
les
temps.
Marées et sur le vivant, c'est-à-dire que sur un végétal ou même sur nous, on se rend bien compte qu'on est, on peut être sensible à une pleine lune, on peut être sensible à une lune particulièrement présente notamment.
Alors autre phénomène auquel vous avez peut-être eu la chance d'assister cet été, c'est le fameux rayon vert.
J'en ai vu un, moi.
Jamais.
Je suis
jaloux.
Ah, je suis envieux là.
Ah, moi aussi.
J'en ai vu
c'est
un à Biarritz, figurez-vous.
Ah oui, bah, bah décrivez-nous cet
instant. Mais c'est magnifique. Moi, je suis un peu un chasseur de rayons verts. C'est la troisième fois que j'en vois un.
Ah ouais.
Et donc, on a la chance d'avoir un magnifique coucher de soleil. Donc, à chaque fois, j'attends. Hein, j'attends le dernier moment, ce dernier moment où le dernier rayon du soleil plonge dans l'océan. Et là, il y a un petit rayon vert. Ça dure une fraction de seconde. Hein. Moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment ultra bref, mais il faut être attentif. Et j'ai eu mon rayon vert.
Vous n'avez pas vu d'homme vert, ça
non,
n'a rien
non,
à voir.
Je savais que vous alors, vous, vous moquiez de moi, mais non. Comment ça marche, tiens ?
Oh bah, ça marche. Alors là, on rentre dans la décomposition de la lumière. Hein. On sait que la lumière peut se décomposer de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Et à l'intérieur de ce spectre-là, évidemment, parfois l'atmosphère joue ce rôle de filtre. Alors, en plus, on peut ajouter parfois l'effet ionisant, c'est-à-dire que quand on est tout en haut de la troposphère, cette zone atmosphérique où on vit, où on commence à avoir moins d'air, là, il y a d'autres particules qui viennent se mêler. Donc, quand le soleil descend effectivement sur l'horizon, eh bien, à travers cette atmosphère qui devient de plus en plus épaisse, on voit la couleur du soleil se transformer parce que l'atmosphère va jouer ce rôle de filtre. Et puis évidemment, il y a ce moment où le soleil va totalement disparaître. Et là, on voit les rayons partir dans les hautes couches de l'atmosphère. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir le rayon vert. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans notre champ visuel directement, mais il apparaît exactement au sommet, si je puis dire, de la couche atmosphérique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut le voir.
Ça dure forcément une fraction de seconde, ou alors il y a des endroits sur la planète où on peut avoir un rayon vert qui dure beaucoup plus longtemps.
Oui, il peut durer plus longtemps quand on monte. Pourquoi ? Parce que le coucher de soleil, plus on va vers le pôle, plus ce coucher de soleil va durer longtemps. Évidemment, à l'équateur, c'est totalement l'inverse, où là, on sait que la rotation, si je puis dire, ou en tout cas la vitesse à laquelle on tourne est plus rapide au niveau de l'équateur qu'au niveau du pôle.
Louis Baudin, un autre pourquoi déniché dans votre livre publié chez Albin Michel, c'est pourquoi fait-il plus froid dans le monde après l'éruption d'un volcan ? C'est vrai, c'est un peu paradoxal.
Ouais,
ça a libéré de la chaleur quand même.
Exactement, ça a libéré de la chaleur, mais ça a surtout libéré énormément de particules. Et toutes ces petites particules, elles servent de noyau de condensation pour les nuages. Donc ça veut donc dire que quand on a eu cette activité volcanique majeure, et c'est arrivé à chaque fois, on a donc toutes ces particules qui se propagent en général sur un hémisphère en priorité. Et sur cet hémisphère, eh bien on a une formation de nuages comme on n'en a jamais vu.
Et ça évidemment, peut durer longtemps du coup ?
Et ça peut durer très longtemps, puisqu'on pense que ça peut avoir des effets entre 5 et 10 ans après une activité majeure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dissipation de ces particules disséminées dans l'atmosphère va prendre beaucoup, beaucoup de temps, ce qui veut dire que l'activité nuageuse, donc la nébulosité, va rester au-dessus de la moyenne pendant plusieurs saisons et donc forcément limiter le réchauffement au niveau du sol.
Mais là, d'un mot, on parle d'énormes éruptions volcaniques.
Oui, comme on n'en a pas eu de notre vivant. Hein. Oui. Manifestement, ce qui s'est passé en 1709, je n'ai plus la date exacte, hein, je crois que c'est ça. Bah, évidemment, hein, on n'a pas de relevé scientifique, on n'a pas l'activité, mais des quelques témoignages que l'on a, on voit que ça a pu... Il y a eu d'abord des projections à des centaines de kilomètres, ça a eu des effets sur plusieurs milliers de kilomètres, et évidemment, une telle valeur, ou en tout cas un tel nombre de particules se projetant dans l'atmosphère, ça a eu forcément des conséquences.
Merci Louis Baudin.
Merci Louis Baudin. Je rappelle le titre de votre livre, Les Pourquoi de la météo, c'est publié chez Albin Michel.
Merci.
Vous écoutez RTL.